Vous écoutez France Culture.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Georges Kless.
Et à la réalisation, Luc Jean Reynaud. Personne ne sait ce qu'est le beau, mais chacun sait ou pressent ce qui est beau. Là est le paradoxe. La beauté est universelle, mais elle n'est pas conceptuelle. La beauté est universelle, mais elle n'est pas exacte. Elle est universelle, elle relève de l'évidence, mais pas de la vérité. La critique de la faculté de juger d'Emmanuel Kant est un texte honnêtement très laid qui, par endroits, se met soudain à dire des choses très belles et d'autant plus belles qu'elles portent sur la beauté elle-même. Il faut lire et relire les petits passages de Kant qu'on va vous présenter ici. Vous y trouverez, entre autres, formulé, décrit, précisé, le détail d'une expérience qu'inévitablement vous avez tous déjà faite.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
L'étranger. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique ? Dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis ? Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie ? J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté ? Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or, je le hais comme vous haïssez Dieu. Eh, qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J'aime les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages.
Alors, pourquoi Raphaël ce poème que nous a lu Georges Kless de Baudelaire ?
Oui, c'est un extrait du Spleen de Paris. C'est un petit poème en prose de Baudelaire, dont l'épilogue énigmatique d'ailleurs a donné un titre à l'un des livres de Françoise Sagan, Les Merveilleux Nuages. Et c'est un, si j'ai bonne mémoire d'ailleurs, c'est un très beau poème, mais c'est surtout, je crois, un poème sur la beauté. C'est-à-dire, voilà un homme qui n'aime rien d'autre que les nuages. En vérité, il ne connaît que cela. Il a les nuages sous les yeux et c'est ce qu'il aime. Quand on lui demande ce qu'il est, c'est-à-dire ce qu'il aime, il ne peut répondre que cela. Et je voudrais qu'on se donne d'abord cette dilection exclusive pour les nuages et ensuite le nuage lui-même, la nature du nuage, enfin la nature perçue du nuage, le phénomène esthétique qu'on appelle nuage, comme point de départ, comme modalité, clé d'entrée éventuelle dans la critique de la faculté de juger, et en l'occurrence l'analytique du beau, c'est-à-dire le paragraphe 9 et l'idée kantienne que est beau ce qui plaît universellement sans concept.
Donc sans brûler les étapes. Hein,
brûler, on y reviendra tout à l'heure.
Donc on se place déjà du côté de la préférence de Kant pour la beauté naturelle, par rapport au beau artistique.
Oui, alors là, vous brûlez effectivement les étapes.
Voilà,
mais
oui,
tout à fait, vous avez raison. Kant est un défenseur de la beauté naturelle. Kant considère que la beauté naturelle est supérieure à la beauté artistique et qu'il est essentiel de le penser. Il est essentiel de le penser parce que sinon, l'art est indexé sur autre chose que lui-même, c'est-à-dire sur une science ou sur un progrès, ce qui est encore pire. Et au fond, Kant répond à l'avance à l'ambition somptueuse, magistrale, impressionnante d'ailleurs, des leçons d'esthétique hegelienne qui décrivent une progression, un processus, alors qu'il s'agit pour Kant de faire valoir l'apparition sans cesse renaissante et sans cesse évanescente ou évanouissante d'un phénomène esthétique. Et cette apparition est comparable à l'apparition d'un artiste dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire à ce que Proust appellera une catastrophe géologique. L'apparition d'un artiste ne déterminant pas tant, sinon par les techniques qu'il peut mettre en place ou par l'utilisation qu'il peut faire de son propre folklore, ne déterminant en rien l'œuvre qui la suivra. L'histoire de l'art est une collection de catastrophes géologiques et ceci n'est pensable qu'à la condition de tenir la beauté naturelle, c'est-à-dire une beauté débarrassée, au fond, non pas de toute finalité, mais d'une fin objective, d'une fin à laquelle on puisse assigner une intention précise, qu'on puisse identifier à une intention précise. Il est essentiel pour penser l'histoire de l'art en ces termes-là, on y viendra tout à l'heure, de considérer que la beauté naturelle est supérieure à la beauté artificielle, c'est-à-dire à la beauté telle que les hommes sont capables, susceptibles de la construire en réalité. La beauté telle que les hommes la construisent n'est beauté que si, et c'est toute la théorie kantienne du génie, que si la nature dicte implicitement ses propres règles à l'activité artistique.
Sa règle en allemand.
Sa règle en allemand.
Pourtant, je ne fais pas d'allemand. Hein, Mais
revenons au nuage.
Voilà, revenons au nuage et au poème de Baudelaire. En le prenant comme point de départ d'une émission sur Kant et sur la faculté de juger, est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même d'une contradiction? Parce que cet homme énigmatique dit donc préférer les nuages à tout. Enfin, vous avez dit qu'il y a une exception. Et pourtant, le sentiment du beau chez Kant est un sentiment universel. Donc quand cet homme énigmatique dit qu'il n'a ni patrie, ni frère, ni sœur, ni mère, et qu'il n'aime que les nuages, on pourrait être dans un plaisir privé, individuel,
empirique, c'est-à-dire un plaisir en vérité, c'est-à-dire un plaisir finalement intéressé, et un plaisir qui en lui-même, par la nature même de l'intérêt qu'il revêt pour la chose qui lui fait plaisir, pour l'ornement ou l'agrément qui lui fait plaisir, qui flatte son corps, un plaisir qui en lui-même n'est pas communicable. Nous n'avons pas la même conception du plaisir, par exemple on n'a pas les mêmes goûts. Si vous aimez le basilic et si moi je préfère la menthe, si vous voulez, le plaisir que vous éprouvez en mangeant du basilic ne m'est pas communicable. Si
on retomberait dans les paradoxes, et, enfin dans l'antinomie où on était dans l'émission sur Hume par exemple.
Le texte de Hume était un texte qui faisait droit à la réalité sensible d'une impression, à un plaisir particulier, et qui en même temps considérait que ce plaisir particulier était en un sens susceptible d'extension universelle sous certaines conditions, dans certains cas, et il examinait les conditions de possibilité de cette universalisation du plaisir. Mais on était, d'un point de vue kantien, puisque là on est chez Kant, on était d'un point de vue kantien, ce sont les premiers vagissements, si vous voulez, ce sont les vagissements d'une théorie de l'universalité du sentiment esthétique. Ce qui est universel ici, ça n'est pas l'amour de toute chose, c'est le sentiment que nous éprouvons. C'est donc, il faut bien que ce sentiment-là ait une singularité. Si notre expérience esthétique, notre expérience de la beauté, est susceptible d'être universalisée, c'est bien qu'elle n'est pas réductible à un plaisir rigoureusement empirique, au plaisir empirique que peut prendre un sujet face à quelque chose qui ne satisfait que lui, en définitive. C'est qu'il y a là un plaisir susceptible d'universalisation, et c'est la nature de ce plaisir que Kant examine dans la définition de ce qu'il appelle l'expérience esthétique. Et il se sert des nuages, enfin, on peut se servir des nuages, pédagogiquement, je crois, pour le donner à comprendre, pour reprendre tous les termes de l'expérience esthétique kantienne. En peu de mots, Paola, l'expérience esthétique kantienne, telle qu'elle est décrite donc dans la troisième critique, a, en gros, allez, on va dire trois signes distinctifs. La première, c'est qu'elle est désintéressée. C'est-à-dire que dire d'un coucher de soleil qu'il est beau, si vous voulez, ça n'est pas comme dire des fesses de Brigitte Bardot qu'elles sont belles, voyez ? Parce que nous n'avons pas le même désir du coucher de soleil et des fesses de Brigitte Bardot, si vous voulez. On est moins désintéressé quand on parle des fesses de Brigitte Bardot que quand on parle de la... Tiens, on va entendre d'ailleurs l'extrait du Mépris dans lequel elle propose à Michel Piccoli. Enfin, elle lui demande s'il aime ses fesses, un extrait que tout le monde connaît. Mais c'est un extrait intéressant parce que c'est un extrait qui renvoie justement à, pour le coup, à la nature. Alors là, vraiment spécifiquement intéressé d'un plaisir, et on sent bien dans la voix de Piccoli quand il lui répond que le plaisir qu'il éprouve à contempler les fesses de Brigitte Bardot est un plaisir intéressé.
Tu les aimes, mes genoux aussi?
Oui, j'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses?
Aussi.
Tu vois mon derrière dans la glace?
Oui.
Tu les trouves jolies, mes fesses?
Oui. Très.
Tu veux que je me mette à genoux?
Non. Ça va.
Et mes soeurs, tu les aimes?
Énormément.
Doucement, pas si fort.
Donc là, on est dans un plaisir désintéressé. Ça, c'est le premier élément de l'expérience esthétique. Bon.
Excusez-moi, oui. Mais c'est là où il fait vraiment la différence avec Hume, qui ne séparait pas le sentiment du beau du sentiment de l'agréable. Donc c'est... Enfin, Kant...
Vous avez tout à fait raison.
Kant agit en chimiste un petit peu.
Il absolument. Il agit en chimiste. Il trie le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire qu'en fait, il éloigne l'agrément au sens le plus trivial, le plus singulier, le plus privé, le plus particulier, le plus empirique du terme. Il débarrasse l'expérience esthétique de cette forme d'agrément-là, au motif que ça n'est pas par cet agrément qu'une expérience esthétique se donne comme universelle. C'est-à-dire, ça n'est pas par l'agrément qu'on peut dire que face à un coucher de soleil ou face à un nuage, on dit « c'est beau », c'est-à-dire qu'on se met en situation de parler au nom du monde entier. Ça n'est pas l'agrément qui nous fait le dire. Ou alors, quand c'est le cas, on débouche sur un dialogue de sourds, si vous voulez. C'est comme aimer un film ou ne pas aimer un film. Par exemple, vous êtes agacé par un film parce que votre propre histoire vous met en porte-à-faux avec le propos du film. Donc, vous êtes vous-même, votre idiosyncrasie, votre parcours, votre biographie, vous éloigne du film que vous avez sous les yeux. Ce film vous agace, ce film vous énerve. Alors, vous avez deux écoles. Soit vous dites, écoutez, vu la façon dont j'ai vécu ma propre existence, je suis particulièrement agacé par ce film. Et vous avez l'humilité de reconnaître que ce qui vous agace dans ce film ne vient pas du film lui-même, mais de la rencontre entre l'histoire que raconte ce film et votre propre histoire. Bon. Qui fait ça ménage la possibilité d'une discussion sur le film, puisqu'il fait, dans le grief qu'il formule à l'endroit de cet objet cinématographique, la part de singularité, d'empirisme, d'individualité, la part irréductible d'individualité dans le jugement, entre guillemets, qu'il porte sur ce film, qui est en fait une opinion. Mais vous avez un spectateur moins respectueux, moins scrupuleux, qui lui, étant agacé par ce film, se masquant à lui-même les raisons pour lesquelles un tel film l'agace, ou un tel livre l'agace, ou une telle histoire l'agace, ou une telle musique l'insupporte, se masquant à lui-même les raisons pour lesquelles il ne supporte pas ça, décrète que c'est insupportable, c'est-à-dire érige en norme l'expérience qui est la sienne, le mélange d'individualité, de biographie et de rencontre avec un objet cinématographique, littéraire ou pictural ou sculptural, enfin peu importe, et interprète cette rencontre en termes de jugement objectif. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Pourquoi est-ce de la merde ? Parce que j'aime pas, si vous voulez. C'est le moment où l'agrément ou le désagrément est érigé en norme. Et effectivement, quand un désagrément est érigé en norme, la discussion est impossible. La discussion n'est possible que si deux personnes se disent « j'ai aimé », bon, l'une dit « j'ai aimé », l'autre dit « moi, je n'ai pas aimé ». Parlons, discutons, examinons les raisons pour lesquelles on aime, et peut-être on découvrira au sein de cette discussion les motifs pour lesquels on aime ou on n'aime pas, et peut-être d'ailleurs changera ton avis, qui sait. Mais en revanche, la discussion est rendue impossible si au lieu de dire « j'ai aimé », on dit « c'est bon », et si au lieu de dire « j'ai détesté », on dit « c'est nul ». À ce moment-là, la discussion est impossible. La discussion est impossible quand elle donne des contours flatteurs et objectifs à un sentiment qui reste un sentiment empirique. Donc, de l'intérêt, si vous voulez, de l'intérêt du désintérêt, ou du désintéressement, en l'occurrence, dans l'expérience esthétique. C'est essentiel, parce que si on n'est pas désintéressé dans l'expérience esthétique, eh bien, on compromet, si l'on juge au nom du sentiment incarné que nous éprouvons de la chose, alors notre jugement est fatalement biaisé, et quand bien même on aurait raison, ce qui n'a pas grand sens sur une œuvre d'art, quand bien même on aurait raison, ou on dirait vrai, par exemple, on dirait vrai sans savoir pourquoi. Voilà. On dirait vrai parce que notre propre expérience coïncide avec la nature de l'objet dont nous parlons. Bon. Donc c'est le premier critère, si vous voulez. Ce désintéressement qui est une condition de la liberté, au fond. Qui est une condition de la liberté, qui est également une condition du dialogue. Et la critique de la faculté de juger est un texte politique. C'est un texte d'esthétique, mais c'est un texte politique où Kant élabore les conditions de possibilité d'un dialogue. Arendt le lisait comme ça. Elle disait « la politique de Kant est dans la critique de la faculté de juger parce que les conditions d'un dialogue, les conditions d'un dialogue qui ne sacrifie pas le jugement au respect de l'autre, mais qui en même temps ne sacrifie pas l'altérité et l'opinion de l'autre à la nécessité de juger, ces conditions-là, ces conditions difficiles, complexes à élaborer, sont mises en œuvre paradoxalement dans un texte qui, censément, en tout cas dans sa première partie, ne s'occupe que d'esthétique. Donc, premier critère, ça, désintéressé. Le second critère, c'est la fameuse phrase dont on va reparler, c'est la phrase du paragraphe 9 qui clôt le paragraphe 9. « Définition du beau déduite du second moment, dit Kant, est beau ce qui plaît universellement sans concept. La beauté peut faire l'objet d'une universalité non conceptuelle. » C'est-à-dire, c'est une universalité qui n'est pas garantie par la science. On va y revenir parce que c'est l'essentiel, hein, en fait. C'est ce qu'il faut qu'on dise aujourd'hui. Si nous passons une heure à examiner cette phrase, si vous voulez, on n'aura pas tout à fait perdu notre temps, ni nos auditeurs. Et puis, il y a aussi l'idée, et ça c'est très important, que la beauté donne, alors je ne sais plus comment il le dit exactement, le sentiment d'une finalité, le sentiment d'une téléologie, le sentiment d'un but, le sentiment d'une direction. Ouais, mais c'est une direction qu'elle aurait oubliée en chemin. C'est une phrase que j'emprunte à Virginia Woolf, ça. Les monologues internes de Septimus, du personnage de Septimus dans Mrs. Dalloway. Septimus regarde les nuages. Et il voit les nuages comme des soldats qui viendraient accomplir une mission de la plus haute importance, seulement, manque de bol, ils l'ont oublié en chemin. Et c'est l'idée de cette finalité sans fin, cette finalité sans fin, le sentiment d'une finalité qui n'est accompagnée d'aucune fin objective, qualifie la beauté. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment magnifique. Et il me semble que tous ces traits, ces signes distinctifs de l'expérience esthétique kantienne se retrouvent dans le fait de contempler un nuage.
Alors, j'ai quand même une question, parce que...
Mais on va voir pourquoi, hein, d'ailleurs. Mais allez-y. Ouais.
Vous avez énoncé 3 critères pour le sentiment esthétique. Et on peut se dire, quand même, un lecteur peut se dire, mais dans l'expérience de façon empirique, est-ce que ça ne serait pas une utopie, ce sentiment esthétique ? Est-ce qu'on le goûte vraiment ? À quoi ça sert d'en parler ? Alors que, généralement, quand on écoute une musique, souvent... C'est le son du violon ou c'est le son du piano qui nous plaît plus que la forme musicale, ou quand on regarde un film, c'est tel acteur. Donc à quoi bon parler de quelque chose qui est peut-être juste une utopie ?
Alors, c'est une utopie si vous lisez Kant comme un auteur normatif, c'est-à-dire comme quelqu'un qui dit « attention, voici les conditions à remplir pour faire effectivement une expérience esthétique. Donc, quand vous êtes confronté à un spectacle, regardez si votre émotion est désintéressée, puis mesurez le taux de liberté dans votre jugement, vérifiez dans quelle mesure il n'y a aucun concept qui intervient dans le sentiment de l'universalité de l'émotion que vous éprouvez, et puis une fois que vous avez vérifié ça, demandez-vous s'il n'y a pas là une finalité sans fin, et si tout cela coïncide, alors vous faites une expérience esthétique. Ça ne marche pas comme ça. De la même façon que Kant... Ne, dans la critique de la raison pratique ou dans les fondements de la métaphysique des mœurs, n'élabore pas une morale, mais entend, c'est beaucoup plus ambitieux, mettre au jour les fondements de toute moralité, ce qui est au principe même de la moralité. Ce qui, de vous à moi, est une façon beaucoup plus fine et beaucoup plus subtile et beaucoup plus sournoise d'être en réalité hyper normatif. C'est parce que je ne suis pas kantien que je dis ça. Mais laissons cela, parce que essayons d'être kantien quand on parle de Kant. Je serais malhonnête, si vous voulez, si je vous disais pas ça, mais laissons cela quand même. De la même façon donc, que dans la critique de la raison pratique, au fond, il s'agit d'élucider les conditions d'un jugement moral et de son rapport à la liberté. Dans la critique de la faculté de juger, il ne s'agit pas de dire ce qu'est le beau, puisque personne ne le sait, mais d'élucider les conditions au terme desquelles le sentiment de la beauté produit ce que Kant appellera plus tard une pensée élargie, c'est-à-dire la possibilité d'une communicabilité universelle, le sentiment que quand on est ému par la beauté de quelque chose, on l'est à l'unisson du monde entier. Et c'est ce sentiment-là qui ne correspond à aucun concept qu'il lui faut construire pour des raisons internes à sa propre œuvre. Il a déjà écrit 2 critiques, il s'agit de s'occuper d'esthétique, ça n'est pas un hasard. Je ne veux pas ici entrer dans les raisons même de l'opéra kantien. Ça n'est pas mon propos. Mais en revanche, il se trouve que d'une démarche juridique qui était celle de la critique de la raison pure, c'est-à-dire de quoi puis-je juger, à une démarche esthétique ici, et en passant par l'élucidation des fondements de la morale, il y a une communauté d'intentions avec une petite singularité ici, dans l'expérience esthétique, c'est au fond cette défaite du concept qui renvoie la beauté finalement à un ordre quasi jurisprudentiel, c'est-à-dire à l'idée que les œuvres d'art, en définitive, pour Kant, sont nomothétiques, c'est-à-dire produisent elles-mêmes leurs propres lois, ne sont pas œuvres d'art en vertu de leur obédience à des lois, de leur obéissance à des lois déjà écrites, mais en réalité produisent des lois qu'il faudra ensuite transgresser pour faire une autre œuvre d'art, ou plus exactement que l'œuvre d'art suivante transgressera sans s'être même donné ces lois, autrement que comme un cadre susceptible, justement, d'être transgressé. Mais j'en reviens au nuage. Parce que, pour que tout ça soit bien intelligible par nos auditeurs, et qu'ils aient, au fond, une sensation de ce qu'on peut trouver dans ce livre. Encore une fois, j'invite tout un chacun à lever les yeux au ciel. Ce qui est peut-être la meilleure façon d'être kantien, en l'occurrence. Non pas parce que Kant va chercher des idées de la raison dans un au-delà hypothétique qui devrait gouverner notre action ou notre façon de connaître. Non, parce qu'au ciel, il y a des nuages. Et qu'est-ce qui se passe quand on voit un nuage? D'abord, il y a deux façons d'envisager le nuage. Soit vous envisagez le nuage en rapport avec votre activité du jour. Vous voulez aller jouer au tennis et vous voyez un gros cumulonimbus, vous détestez ce nuage, le jugement que vous formulez sur ce nuage n'est pas désintéressé. Bon. Vous dites « Ah, c'est horrible, c'est moche, c'est affreux, quel calvaire, quel cauchemar, quel ennui, quel dommage. » Bon, bref, vous êtes relié à cette affaire-là. Donc votre jugement n'est pas désintéressé. Vous ne regardez pas le monde séparément du besoin que vous en avez. Ce qui est malgré tout l'une des leçons de la critique de la faculté de juger. En vérité, Kant prolonge le sentiment que l'existence n'est pas démontrable. Ça, c'est la grande valeur ajoutée. On trouve ça dans la critique de la raison pure et dans la critique de la faculté de juger, il en prolonge les ramifications. Il s'agit de s'intéresser ici au fait que l'existence n'est pas démontrable. Au fond, l'existence ne nous dit rien. L'existence ne nous dit rien et que la meilleure façon d'appréhender l'existence, c'est encore de l'appréhender séparément du besoin qu'on peut en avoir, car le besoin biaise. Le besoin transforme notre cerveau en garde-triage et réduit le monde considérablement à tout ce qu'il nous faut. Bref, on regarde le nuage séparément de la partie de tennis qu'on a prévu de faire ou bien de la promenade qu'on a prévu de faire en montagne et qui est compromise par le nuage. Bon. On regarde le nuage séparément de cela. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit un spectacle dont on ne peut pas ne pas se dire qu'il est beau. C'est beau, un nuage. C'est toujours beau. C'est toujours beau, qu'il soit seul dans le ciel, qu'il soit comme une cathédrale, qu'il soit comme un filament lointain, que ce soit des ailes d'ange, que ce soit un cirrus, un stratus, un nimbus, un cumulonimbus, peu importe. C'est toujours beau. C'est toujours beau. Et le deuxième point qui me semble très important sur la question des nuages, c'est que tout spectateur, en regardant les nuages, s'accordera, vous et moi, nous serions d'accord pour dire d'un nuage qu'il a une forme. Mais, Paola, sur quoi est-ce qu'on ne va pas s'entendre?
Mais laquelle?
Voilà. On ne s'entendra pas sur la forme qu'il a. Mais ça, c'est l'essentiel. Tout est bon dans ces cas-là. Il n'y a aucun problème, si vous voulez. Que nous soyons, vous et moi, en désaccord sur la forme du nuage, c'est-à-dire, en un sens, sur la réalité objective du nuage. Que nous soyons, vous et moi, en désaccord là-dessus, ça n'a aucune importance. Tant qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a une forme. C'eût été beaucoup plus grave, et le dialogue entre vous et moi eût été impossible, si nous n'étions pas même d'accord sur le fait qu'un nuage est une forme. Cette information du nuage, le fait d'attribuer une forme au nuage est la condition de possibilité d'un échange entre vous et moi. Et c'est cela qui est universel. C'est cela qui est universel. À cela s'ajoute intuition qui me vient de la lecture de Mrs. Dalloway et de ces nuages dont la mission a été oubliée. À cela s'ajoute le sentiment paradoxal d'une finalité sans fin. On se dit, ils ne sont pas là pour rien, mais ils ne savent plus pourquoi ils sont là. Si vous voulez, le nuage est un peu dans la position d'un, si j'ose dire, d'un fumeur amnésique. Quelqu'un qui perd la mémoire du jour au lendemain, se réveille un matin, et donc il ne sait plus ni qui il est, ni comment il s'appelle, ni quelles sont ses habitudes, ni qui il aime, ni ce qu'il a l'habitude de faire, ni quels sont ses goûts alimentaires, ni qu'il est fumeur. Il ne le sait plus. Seulement, son corps, lui, s'en souvient, et hurle sa dose de nicotine, et il ne sait pas ce qui lui manque, parce qu'il ne sait même plus que les cigarettes existent, au fond. C'est ce sentiment-là, c'est ce sentiment d'amnésie, cette faveur. Quand on parle d'une faveur, on peut aussi parler d'une amnésie face au jugement de goût. Alors, aux antipodes de cette impression-là, vous avez deux personnes qui, regardant un coucher de soleil, l'une dit « c'est beau », et disant « c'est beau » ne prétend pas imposer son jugement à l'autre, mais parle quand même au nom du monde entier, et l'autre lui dit « ben non, c'est moche ». Ce qui est intéressant dans l'histoire, ça n'est pas tellement le fait que l'autre ait dit « c'est moche ». Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'en disant « c'est beau », vous n'avez pas prétendu imposer votre jugement tout en parlant au nom du monde entier et que vous pouvez à bon droit, sans être impérialiste, sans être totalitaire, vous étonner que la personne qui est à côté de vous trouve ça moche. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est la possibilité de trouver ça moche, c'est le fait que le dialogue est rompu à la seconde où on ne s'entend pas au moins, si vous voulez, ou la prémisse n'est pas au moins que, ben voilà, un coucher de soleil, c'est beau, que voulez-vous. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je pense qu'il serait bon peut-être de donner à entendre un peu la prose, oui, de Kant, traduit du moins en français.
La prose de Kant, allons-y. Alors nous allons enjamber les étapes, puisqu'on va se promener dans ce texte. C'est un très beau texte, la critique de la faculté de juger. C'est un texte sur lequel on peut revenir maintes fois dans cette émission, Paola, et qui d'ailleurs est implicitement à l'œuvre dans beaucoup de discussions que nous avons. Et on va donner à entendre, tiens ici, le paragraphe 42 de la critique de la faculté de juger. Nous avons parlé du paragraphe 9, nous allons, qui se trouve dans l'analytique du beau, et nous allons aller maintenant vers l'analytique du sublime, le paragraphe 42 qui s'appelle « L'intérêt intellectuel pour le beau ». Voici donc du Kant dans le texte.
Celui qui, dans la solitude et sans intention de communiquer ses observations à d'autres, contemple, pour les admirer et les aimer, la belle forme d'une fleur sauvage, celle d'un oiseau, d'un insecte, etc., et regretterait qu'elle manquasse dans la nature en général, car loin d'y voir miroiter quelque avantage pour lui, il en subirait quelque dommage. Celui-là prend un intérêt immédiat, d'ordre intellectuel, à la beauté de la nature. C'est-à-dire que lui plaise non seulement la forme des produits de la nature, mais aussi leur existence, sans qu'y eût part une excitation sensorielle ou qu'il y a une quelconque finalité à ce plaisir. À ce sujet, il faut remarquer que si l'on avait secrètement trompé cet amateur du beau, en plantant des fleurs artificielles, que l'on sait fabriquer toutes semblables aux fleurs naturelles, ou en installant sur des branches d'arbres des oiseaux artistement sculptés, et qu'il découvrit alors la supercherie, l'intérêt immédiat qu'il y prenait auparavant disparaîtrait aussitôt, mais ferait sans doute place à un autre intérêt, celui de la vanité qui consiste à décorer une pièce de ce genre d'objet et pour des yeux étrangers. La pensée que c'est la nature qui a produit cette beauté doit accompagner l'intuition et la réflexion et fonder à elle seule l'intérêt immédiat qu'on prend à cette beauté. Autrement, il ne reste qu'un jugement de goût, soit tout à fait désintéressé, soit lié à un intérêt média, c'est-à-dire rapporté à la société. Et dans ce cas, le jugement n'est pas le signe certain d'une manière de penser moralement bonne. Si l'on avait secrètement trompé cet amateur du beau en plantant des fleurs artificielles ou en installant sur des branches d'arbres des oiseaux artistement sculptés.
Ouais.
Alors c'est quand même intéressant parce que ça voudrait dire que l'émotion qu'a vécue donc cet homme seul en écoutant les oiseaux chanter ou en regardant les fleurs, elle se révélerait rétrospectivement fausse au moment où il découvre que c'était faux, c'était fait par l'homme.
C'est bizarre, ça. Hein.
Bah oui, parce que comment... Enfin, ça remet beaucoup de choses en question.
Essayez de formuler ce qui vous trouble là-dedans, parce que je crois que c'est très important.
Oui, bah, du coup, est-ce que l'émotion... Oui, c'est...
On éprouve une émotion.
Oui, voilà.
Et après, on s'aperçoit que ce qui a suscité l'émotion ne correspond pas à ce que l'émotion qu'on éprouvait nous indiquait, mm-mm, ou semblait nous indiquer. Et du coup, il y aurait une espèce de rétroaction qui viendrait corrompre après coup l'émotion qu'on a éprouvée.
C'est exactement ça.
C'est bizarre comme truc. Hein. C'est un peu comme deux personnes, par exemple, qui passent 10 ans ensemble, dans un parfait bonheur, une totale complicité, une sexualité épanouie, etc. etc. Puis au bout de 10 ans, la femme ou le mari s'aperçoit que l'autre a passé 10 ans à mener une double vie.
Mais vous, excusez-moi Raphaël, mais vous me tendez une perche. On a déjà parlé pourtant de History of Violence de Cronenberg, mais c'est exactement ça.
C'est la même chose. History of Violence, c'est quoi? Voilà, ils sont heureux, ils s'aiment, le type est adorable, la femme est belle, l'enfant est charmante, tout va bien, c'est une famille idéale, etc. Sauf que le type... Alors attention, c'est pas quand il était avec elle, c'était avant de la rencontrer. Elle découvre que le type, avant de la rencontrer, était un tueur à gages. Bon. Bien. Alors, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trahison qui viendrait souiller rétroactivement le truc. Alors, il faut reprendre un tout petit peu les choses, là. Vous passez de longues années avec quelqu'un dans le bonheur, la félicité et la confiance, et puis un jour, cette confiance se trouve trahie rétroactivement, et comme une ombre rétroactive, comme un passé souillé, un passé soudain souillé, un passé modifiable, comme si le passé pouvait être altéré, ce que vous découvrez ou ce que vous apprenez de la personne en question vous déçoit. Bon. Et par conséquent, vous considérez qu'en un sens, vous n'avez pas éprouvé ce que vous avez éprouvé puisque vous l'avez éprouvé pour de mauvaises raisons. Je croyais que je t'aimais, en fait je ne t'aimais pas puisque t'étais un salaud. Bon. Ce qui est une drôle de disposition d'esprit. Ce qui est un truc étrange parce que, quoi qu'on fasse, on peut sortir avec un nazi ou avec un tueur d'enfants sans savoir que c'est un tueur d'enfants, être profondément amoureux. Si on s'aperçoit un jour que la même personne était un tueur d'enfants pendant qu'on l'aimait, on peut se dire, bah voilà, j'aimais quelqu'un qui était un tueur d'enfants. Mais je l'ai aimé quand même. Le sentiment, la nature du sentiment que cette personne-là m'a inspiré n'est pas douteuse. Et ça, c'était la grande objection de Hume à l'hypothèse d'une universalité du goût, puisqu'il dit, une impression, elle n'est jamais fausse, puisqu'elle ne renvoie qu'à elle-même. Une impression, elle ne désigne pas l'objet. Vous éprouvez un truc, mais ce que vous éprouvez ne renvoie qu'à ce que vous éprouvez, ça ne renvoie pas à la vérité de l'objet en question. Donc, à partir du moment où telle personne vous fait éprouver telle chose, le fait qu'elle ait eu un passé ou un passif d'assassin, ou de tronc, ou d'adultère, ou etc., etc., n'est pas en mesure d'altérer le sentiment que vous avez éprouvé. Bon. Alors, pourtant, et il faut faire droit ici à l'hypothèse kantienne et à son génie, à son coup de génie, à cet argument. La thèse de Kant, hein, c'est si on avait secrètement trompé un amateur du beau en plantant des fleurs artificielles et qu'il s'aperçoive après coup que les fleurs dont il s'extasiait étaient des fleurs artificielles, eh ben il cesse d'être ému par la beauté de ces fleurs. De la même manière, si vous êtes dans la rue, vous voyez au loin la pleine lune, dans l'axe pile de l'avenue où vous vous trouvez, en pleine nuit, la pleine lune, magnifique, ronde, pleine, blanche, sublime, à l'horizon, un peu élargie, parce que vous savez, comme la terre, la chaleur de la terre fait loupe, la lune, quand elle est à l'horizon, est un peu plus large, donc un peu élargie, comme ça, et vous voyez la lune dans l'axe et vous êtes émerveillé. Vous avancez un peu, vous apercevez que c'est un réverbère. L'émerveillement disparaît, il faut bien le reconnaître. L'émerveillement disparaît. Pour être émerveillé, il faudrait savoir continuer de voir la lune quand on sait que c'est un réverbère. Et il y a une lecture de la critique de la faculté de juger comme un éloge, l'éloge implicite d'une candeur retrouvée. C'est-à-dire, au fond, Kant dit « Vous êtes émerveillé par quelque chose, vous vous apercevez que c'était bidon et votre émerveillement s'estompe. » Bon, mais dans le même temps, on pourrait considérer que Kant fait l'éloge d'une disposition de l'esprit, d'une naïveté supérieure, une naïveté supérieure à toute forme de sagesse ou d'intelligence qui consisterait à rester émerveillé, à faire droit à l'émotion qui serait la mienne si le réverbère était effectivement la lune. C'est-à-dire à continuer de voir dans ce réverbère la lune, comme à continuer de voir dans des nuages des gâteaux de chocolat blanc, si vous voulez, même si ça c'est un jugement un peu intéressé. Mais là où le problème est vraiment redoutable, c'est que ce que Kant décrit, c'est une expérience que nous avons tous faite, qui est de passer devant l'étal d'une boulangerie. Vous passez devant l'étal d'une boulangerie et vous êtes happé, et je sens que Michel Mestre est sensible à cet argument, vous êtes happé par l'odeur exquise, le parfum du pain qui sort de la boulangerie. Vous ne pouvez pas ne pas aller acheter votre baguette tradition dans cet endroit-là, ou votre pain au chocolat. Vous ne pouvez pas ne pas entrer dans cette boutique qui sent si bon. D'accord ? On a tous éprouvé ça. Les enfants que nous sommes, les enfants que nous avons été, ont tous éprouvé à un moment, ont tous croisé cette odeur divine qui parfois hante les rues et qui correspond à l'étal d'une boulangerie. Bien. Or, figurez-vous que c'est bidon, cette odeur. Ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas, c'est un artifice de boulanger. C'est du parfum. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Bon, voilà, c'est une arnaque. C'est comme ça, ça marche pas. Cette odeur sublime, l'odeur savoureuse, dense et douce du pain en train de se faire, qui adoucit l'attente quand on achète son pain à l'heure du déjeuner et que les boulangeries sont prises d'assaut, eh ben cette odeur, c'est une contrefaçon. C'est du faux. Ça marche pas. C'est très rare quand c'est vrai, en tout cas. Ça ne marche pas. En gros, qu'est-ce qu'on fait ? On prend pour du feu ce qui n'était que de la fumée. On prend pour authentique ce qui n'était qu'un artifice. On est attiré par un leurre. On est comme un taureau dans l'arène qui prend une cape rouge pour un lutin facétieux qu'il doit encorner. On se fait avoir. Oui,
oui, mais vous prenez là un exemple qui est de l'ordre de l'agrément, de l'agréable. Et Kant parle bien d'un sentiment intellectuel du beau. Donc, c'est pas exactement la même chose.
Non. Bien sûr qu'il parle d'un sentiment intellectuel du beau. Mais quels sont les exemples que prend Kant à l'appui de ce que je vous dis ici ? Les fleurs artificielles, c'est-à-dire typiquement une beauté d'agrément, un ornement. Ou bien le chant d'un rossignol. Tiens, d'ailleurs, on va l'entendre, on va le lire, le chant du rossignol, pour rester sur cette difficulté. Le chant d'un rossignol. Mais le chant d'un rossignol, dans la mesure où il nous agrée. Dans la mesure où il nous est plaisant. Quel est le mot qu'il emploie exactement ? Je vais le trouver. dans la mesure où il est apprécié des poètes. Écoutez.
Quoi de plus apprécié des poètes que le tri enchanteur du rossignol lancé d'un bosquet solitaire par une calme soirée d'été sous un doux clair de lune ? Mais on connaît des exemples de ce que, lorsqu'on a pu trouver un tel chanteur, quelque hôte malicieux a su tromper pour leur plus grande satisfaction les invités venus chez lui jouir de l'air de la campagne, en dissimulant dans un buisson un jeune espiègle qui sache imiter avec une apparence de parfait naturel ses trilles en sifflant dans un jonc ou un roseau. Mais dès qu'on est persuadé de la supercherie, personne ne supportera longtemps d'écouter ce chant auparavant si attrayant. Et il en va de même avec tout autre oiseau chanteur. Pour que nous puissions prendre un intérêt immédiat à ce qui est beau en tant que tel, il faut que cette beauté soit naturelle, ou qu'elle passe pour l'être à nos yeux, a fortiori lorsque nous nous autorisons à supposer que d'autres doivent y prendre intérêt.
Il me semble, là, en Cagneuse, qui a bien étudié sa critique de la faculté de juger...
Faites pas la maline, posez-moi des questions, allez-y.
C'est la question de la liberté qui est en filigrane dans ce texte.
Ah oui, mais la question de la liberté est en filigrane dans toute la critique de la faculté de juger. Pourquoi ici particulièrement, voyez-vous, la question de la liberté, c'est intéressant. Pourquoi ?
Parce qu'il dit qu'on prenait plaisir au chant de l'oiseau lorsqu'il nous avait l'air naturel. Et ce naturel, chez Kant, c'est bien aussi le naturel et ce qui a l'air libre. Donc en fait, ce qu'on reproche, c'est d'avoir, puisqu'on sait très bien que le chant d'un petit espiègle va être préparé à l'avance, donc il n'est pas libre parce qu'il sait très bien quelle note il va chanter après pour imiter le chant de l'oiseau, alors que l'oiseau, il y a, je ne sais pas, une imprévisibilité qui donne l'impression de la liberté.
C'est une lecture assez bergsonienne de Kant que vous avez là, et elle n'est pas inopportune du tout, et elle n'est pas pour déplaire à l'amoureux de Bergson que je suis moi-même et que certains de nos auditeurs sont. Donc effectivement, on peut le lire comme ça. Bergson trouvait que Kant manquait d'amour, que ça manquait d'amour dans ses textes. Et effectivement, c'est un peu la raison pour laquelle Kant est un peu le... Vous savez, dans la philosophie est vraiment une question d'épiderme, mais Kant, c'est le type bien dont j'arrive pas à être l'ami parce que c'est trop sec. C'est un peu comme Deleuze, mais pour des raisons tout à fait différentes. Deleuze et Kant n'ont rien à se dire, enfin, beaucoup à se dire. Deleuze est un grand commentateur de Kant et un excellent interprète de Kant. Et d'ailleurs, il fait droit à bien des trouvailles kantiennes, même s'il s'oppose à sa façon de juger, à son tempérament de juge, en un sens, qu'il voit un tempérament de juge derrière le goût de construire un jugement. Mais Deleuze et Kant ont un point commun que Deleuze ne pouvait pas reconnaître lui-même parce qu'il était mal placé pour le faire, c'est leur sécheresse. Ce sont des gâteaux secs. Leur lecture laisse un peu le sentiment d'un gâteau sec. Moi, ça m'a toujours fait cet effet-là. Ça manque de liant, ça manque d'humidité. D'humidité au sens où on la trouve, par exemple, dans la langue de Montaigne, si vous voulez. Ça manque de... On a la gorge sèche, hein, après ça. C'est comme quand on a fumé trop de cigarettes, pardon, j'en reviens à ça, mais il y a quelque chose d'incurablement sec dans ces textes. Mais en revanche, on peut les tirer, je crois, du côté de l'humidité ou de l'humilité qui convient et qui permet justement de rentrer dans leur lecture et de surmonter cette sécheresse. Alors, pour en revenir au texte lui-même, Paola, il faut se souvenir que pour Kant, l'objet du paragraphe 42 de la critique de la faculté de juger, dans lequel se trouve cet exemple du rossignol, que chacun peut d'autant plus comprendre que c'est une expérience que chacun peut faire.
Enfin bon, il arrive rarement qu'il y ait un jeune garçon dans un buisson pour imiter le chant du rossignol.
Non, mais il arrive que vous regardiez le ciel dans la nuit en vous disant à côté de votre amoureux que vous êtes bien peu de choses et que soudain, vous voyez une étoile filante et que vous fassiez un vœu qui vous concerne tous les deux jusqu'au moment où vous apercevez que l'étoile met un peu longtemps à filer et qu'en fait, c'est un satellite. Et vous avez l'air de gros malin avec votre vœu magique que vous avez cru vouloir faire sous les auspices d'une étoile filante. C'est ça que je veux dire. C'est que cette expérience-là, on la trouve partout. Cette expérience, on la fait tout le temps. C'est-à-dire le moment où l'on est déçu par ce que le monde semblait nous dire de lui-même. C'est-à-dire le moment où l'on a pris pour immédiat ce qui était en fait médié et construit et intentionnellement construit et donc susceptible d'un procès d'intention. Ce moment-là est un moment que nous avons tous traversé, vécu. Et ce qui est formidable dans la critique de la faculté de juger, c'est au fond le lien qu'il peut établir entre un tel moment et la constitution d'un espace commun, d'un espace public, c'est-à-dire d'un espace de dialogue, c'est-à-dire de la démocratie. Et ce texte sans amour est un texte qui finit par faire du sentiment esthétique le fondement même d'une communauté politique. C'est pas mal quand même, c'est-à-dire de la sensibilité, le fondement d'une communauté politique. Mais il faut en revenir au paragraphe 42, parce que Kant commence par distinguer, et il a raison de le faire bien sûr, le sentiment moral de l'expérience de la beauté. Il dit, c'est une évidence, l'expérience du beau est axiologiquement neutre. En cela, Kant s'oppose par exemple à Platon. C'est-à-dire, pour Platon, pour le dire très vite, hein, qui aime le beau ne peut pas être tout à fait mauvais, si vous voulez. Il y a une sorte de porosité entre le goût du beau et la bonté. C'est un sentiment platonicien, si vous voulez. Or, pour Kant, il le dit, certains virtuoses du goût sont souvent, et même habituellement, vains, obstinés, adonnés à de pernicieuses passions, et pourraient moins que d'autres prétendre au privilège d'être attachés à des principes moraux. Vous voyez Hannibal Lecter, c'est un esthète. C'est un homme élégant, Hannibal Lecter. On a tous vu Le silence des agneaux, mais est-ce que vous avez vu Hannibal, la suite? Julianne Moore remplace, comme elle peut, Jodie Foster. Et vous avez notamment un passage à la suite où Hannibal Lecter est professeur d'histoire de l'art, et je crois à Florence. Et il donne un cours d'histoire de l'art. Il est d'une élégance, il est d'un raffinement, d'une grâce. Enfin, c'est un monstre, si vous voulez. Donc, la passion de l'esthétique, n'est en aucun cas une garantie de sentiment moral.
Suite à son avarice et à sa trahison de la confiance de l'empereur, Pierre de Lavigna fut déchu, énucléé et emprisonné. Le pèlerin de Dante rencontre Pierre de Lavigna au 7e niveau de l'enfer, et comme Judas Iscariote, il meurt par pendaison. Judas et Pierre de Lavigna sont donc liés chez Dante par cette avarice qu'il condamnait. En fait, l'avarice et la pendaison sont associées dans l'esprit médiéval. Voici la plus ancienne représentation de la crucifixion gravée sur une boîte d'ivoire en Gaule aux environs de 400 après Jésus-Christ. On y voyait aussi la mort par pendaison de Judas, regardant fixement la branche où il se balance. Le voici de nouveau sur la porte de la cathédrale Benevento, pendu, mais cette fois, ses viscères sont exposés. Ah, Commandatore Pazzi.
L'esthétisme du meurtrier était l'un des signes que l'existence et la vertu, si vous voulez, sont deux choses tout à fait différentes. Bien.
Mais oui. J'ai une question, parce que je pensais justement qu'à un moment, mais je ne serais pas capable de dire quand, à un moment, Kant dit que celui qui n'est pas capable d'éprouver une émotion esthétique n'est pas capable de ressentir ce sentiment de beauté face à la nature, n'est pas capable de sentiment moral.
J'adore parler avec vous parce que vous brûlez les étapes et effectivement...
Je ne fais pas exprès, je ne voulais pas vous brusquer.
Mais je sais que vous ne faites pas exprès et je rends grâce au bon hasard de nos discussions. Voici le texte. J'affirme en revanche, donc c'est de Kant, j'affirme en revanche qu'un intérêt immédiat pour la beauté de la nature, ce qui n'est pas simplement avoir du goût pour en juger, est toujours caractéristique d'une âme bonne. Et que, si cet intérêt est habituel, il révèle au moins un état d'âme favorable au sentiment moral lorsque l'intérêt s'applique volontiers à la contemplation de la nature. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'ici, je parle seulement des belles formes de la nature et que j'écarte les attraits qui d'ordinaire y sont liés, parce que l'intérêt pour eux est sans doute immédiat lui aussi, mais il reste empirique. Ça, c'est Kant. C'est à ce texte-là que vous pensiez.
Oui, oui.
Il n'y a pas de contradiction ici. Que dit Kant? Numéro 1. Le sentiment moral n'est pas la même chose que l'expérience de la beauté. En d'autres termes, la beauté ne prouve rien. Ce n'est pas parce qu'on aime le beau qu'on est bon. Bien. De façon générale, l'existence est neutre. Il n'y a pas de phénomène moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. Kant est presque pré-Nietzschéen quand il écrit ça. Et Camus s'y retrouve parfaitement d'ailleurs. Le beau n'est pas une vertu. Le beau, il est là. Il nous sauve peut-être, mais ce n'est pas une vertu. Bon. Donc, un, la beauté ne prouve rien. Deux, l'intérêt immédiat pour la beauté de la nature est caractéristique d'une âme bonne et témoigne d'un état d'âme favorable au sentiment moral. De quoi s'agit-il? De l'intérêt pour la nature, séparément de l'intérêt qu'elle a pour moi. C'est en cela que Kant apporte la précision ultime, il ne faut pas perdre de vue qu'ici je parle seulement des belles formes de la nature et que j'écarte les attraits. C'est pas dans la mesure où la nature m'est profitable que je la trouve belle, c'est dans la mesure où elle est belle que je la trouve belle, et qu'en un sens, j'en profite. Mais j'en profite non pas pour moi, j'en profite pour la partie de moi qui va au-delà de moi. Et cet intérêt désintéressé pour la nature est l'indice d'un sentiment moral. Et ça, que voulez-vous? On le trouve chez Spinoza, on le trouve chez Camus, on le trouve dans l'idée spinozienne que qui aime Dieu ne saurait faire effort pour que Dieu l'aime en retour. On le trouve dans l'idée camusienne qu'il faut aimer le monde séparément du besoin qu'on en a. Hors de tout calcul empirique, hors de toute immixtion de mon intérêt spécifique dans le sentiment que m'inspire le spectacle d'une beauté naturelle. Voyez, il faut aimer le beau séparément de cela. C'est ce que Camus appelle l'été invincible. Cet été invincible qu'il porte en lui, c'est la capacité d'aimer un monde, non pas tant parce qu'on en jouit, que parce qu'au fond, il ne nous dit rien. Et que ne pas l'aimer serait être malheureux deux fois. Mais pour des raisons plus profondes, je crois, qui sont que j'arrive pas à formuler, au fond. Mais disons que Camus et Kant, ici, première fois que je dis une phrase pareille, mais que Camus et Kant partagent le refus de s'attacher aux choses en fonction du besoin qu'elles incarnent ou du besoin qu'elles signifient. Ils déploient l'un et l'autre une sorte de connaissance tragique. Un art de regarder le monde hors du calcul de l'intérêt et regarder le monde hors du calcul de l'intérêt. C'est-à-dire, donc, c'est ce que dit Kant, et chez Camus, ne pas demander au monde d'avoir un sens, au fond, assumer l'absurde. Assumer le fait que le monde ne réponde pas à la question du sens qu'on lui pose. Passer de l'absurde à l'amour, ou comprendre que l'amour doit précéder l'absurde et lui dicter sa démarche. Et le fait de le surmonter, ces deux façons de faire sont deux conditions de la morale, au fond. C'est une condition de la morale. C'est-à-dire que la vraie morale, la morale qui n'est pas écrite ne se trouve pas dans un monde qui viendrait nous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Elle se trouve dans la capacité d'aimer un monde qui, précisément, ne nous le dit pas. Et cet intérêt immédiat que Kant exprime d'ailleurs en parlant d'ordre intellectuel, l'intérêt immédiat dont parle Kant, c'est un intérêt non médié par l'intérêt qu'on y trouve. C'est comme Tintin. La particularité de Tintin. Pourquoi est-ce que les aventures de Tintin, par exemple, sont tellement bigarrées, donnent tellement de paysages, offrent tellement de paysages, de volupté, de paysages? Pourquoi? Comment ça se fait, ça? Parce que Tintin n'est jamais concerné par l'aventure dans laquelle il s'embarque. Il n'est jamais directement concerné. Ça ne le concerne pas. C'est toujours soit pour aider un copain, soit parce qu'il a croisé quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose qui lui semble inqualifiable, soit parce qu'il est reporter. Et qu'il va donc faire une enquête. Mais à aucun moment, il n'est directement concerné. Tintin n'a pas de famille, Tintin n'a pas de sexe, Tintin n'a... Je veux dire, donc, il n'est à aucun moment directement concerné par ça. À aucun moment. Mais il y va. Et cette blancheur, alors, Jean-Luc Marion va jusqu'à dire que Tintin, c'est le Dasein. Donc, pourquoi pas? Mais cette, disons que c'est un sujet transcendantal. C'est un sujet qui n'est pas empirique. C'est un sujet transcendantal. Et qui donc laisse s'épanouir autour de lui des univers extraordinairement bigarrés, puisqu'il ne vient pas les recouvrir ou les opacifier de l'intérêt, de la médiation de l'intérêt que lui peut y prendre. Donc, il s'intéresse aux choses séparément de l'intérêt qu'elles ont pour lui.
Comme ce dont on parle est quand même assez compliqué, assez dense, je vous propose une petite pause détente avec...
vous-même, hein.
Voilà, bah oui, avec une petite lecture de Kant.
Ah, vous êtes facétieuse, Paola, allez-y.
Donc le paragraphe 45. Les beaux-arts ne sont de l'art qu'autant qu'ils ont d'emblée l'apparence de la nature. Face à une production des beaux-arts, nous devons prendre conscience qu'il s'agit d'art et non d'un produit de la nature. Mais, dans la forme de cette production, la finalité doit paraître aussi libre de toute contrainte imposée par des règles arbitraires que s'il s'agissait d'un simple produit de la nature. C'est sur le sentiment que la liberté règne dans le jeu de nos facultés de connaître, sentiment qui néanmoins doit être d'emblée conforme à une fin, que repose ce plaisir, seul à être universellement communicable, sans pourtant se fonder sur des concepts. La nature était belle, lorsqu'elle avait incontinent l'apparence de l'art. Et l'art ne peut être appelé beau que lorsque nous sommes conscients qu'il s'agit bien d'art, mais qu'il prend pour nous l'apparence de la nature. Le génie est le talent, le don naturel, qui permet de donner à l'art ses règles. Puisque le talent, en tant que faculté productive innée de l'artiste, ressortit lui-même à la nature, on pourrait formuler ainsi la définition. Le génie et la disposition innée de l'esprit, par le truchement de laquelle la nature donne à l'art ses règles.
C'est bien ça, hein ?
Oui, c'est bien, mais vous avez vu, j'ai dit peut-être qu'il faudrait quand même, pour être honnête, avouer que j'ai loupé toute une partie du paragraphe 45 pour passer directement
à
la définition du génie.
Ouais. Il y a une définition du génie qui est en germe, en fait, dans cette supériorité de la beauté naturelle sur la beauté artistique. Et c'est ça qui est formidable. Et pour tout vous dire, moi, c'est à Luc Ferry que je dois d'avoir compris ce qu'il y avait dans ce texte, ou que je dois d'avoir le sentiment d'avoir compris ce qui se trouvait dans ce texte. Un livre que Ferry avait écrit en 90, et publié en 91, qui s'appelle Homo Aestheticus, dans lequel, qui est en fait un livre qui porte en germe une critique de l'art contemporain, mais dans lequel il examine ce qu'il appelle le moment kantien, le moment hegelien, le moment nietzschéen. Alors, je suis moins convaincu par Ferry sur Nietzsche et son interprétation de l'éternel retour. On est en désaccord sur la lecture que Ferry propose de Spinoza, dans lequel qu'il réduit, à mon avis, indûment à une pensée quasiment stoïcienne. Mais alors, sur Kant, et ici, je demande à nos auditeurs qui, entendant le nom de Luc Ferry, pourraient dire « va des rétro, homme de droite », je demande à nos auditeurs d'être kantiens, c'est-à-dire de s'intéresser au phénomène ici décrit ou à l'auteur que je mentionne, séparément de l'intérêt qu'ils y trouvent, si vous voulez. C'est-à-dire comprendre une chose, c'est que nous avons là, sur Kant, un extraordinaire pédagogue en la personne de Luc Ferry. Sur Kant, que voulez-vous ? Ferry, c'est un aigle. Et ce qu'il est capable d'expliquer autour de ses paragraphes sur le génie, personnellement, a changé ma vie d'étudiant, parce que c'était limpide. Cette obscurité est devenue limpide.
Alors, on va mettre ça à l'épreuve tout de suite, parce que moi, j'ai quelques questions. Bon, déjà, ça peut paraître quand même étrange quand on sait, lorsqu'il dit, donc, la nature, il faut que c'est l'air aussi libre que la nature. On peut déjà faire une objection qui est peut-être facile, c'est qu'on sait tous que la nature n'est pas libre, puisqu'elle est justement soumise aux contraintes. Enfin, déjà, c'est du régime du comme-si.
Oui, bien sûr, c'est du régime du comme-si, mais tout ça est une métaphore, en fait. Tout ça est une métaphore. On reprend les choses très rapidement, telles que Ferry les expose dans Homo Aestheticus. Hein. Je ne prétends ici aucune originalité, et je m'incline devant celui qui sait l'expliquer mieux que je ne pourrais le faire, probablement jamais. Que dit Ferry ? D'abord, il reprend l'exemple du rossignol. En montrant que l'enjeu de l'exemple du rossignol, c'est de montrer que l'art authentique doit comporter une part de naturalité, un élément qui échappe au contrôle de la subjectivité. Bon. C'est ça, au fond, la leçon du rossignol. C'est que l'art véritable, derrière le désagrément apparemment capricieux de celui qui conteste l'émotion qu'il a éprouvée parce qu'en fait elle était suscitée par un truc bidon, derrière cet exemple-là, il y a l'idée que l'art authentique doit comporter une part de naturalité. Ça n'est pas une science exacte. Et tout le problème, c'est comment l'art peut être à la fois réaliser une certaine forme de beauté et tout en appartenant à la nature de telle sorte qu'il ne se réduise pas à la réalisation techniquement réussie d'une bonne idée. Vous voyez, c'est la différence qu'il y a entre un roman et une bonne copie, si vous voulez. Si l'art ne comportait pas une part de naturalité, il suffirait pour faire une bonne tragédie de faire comme Bouvard et Pécuchet, d'emprunter l'art tragique et d'en appliquer les règles. On pourrait se passer du talent, en définitive, si l'art ne comportait pas une part de naturalité. C'est à l'idée selon laquelle le savoir ou la technique n'est rien tant qu'elle n'est pas fécondée par le talent que Kant fait droit quand il parle de l'exemple du rossignol. C'est ça qui est en jeu. C'est l'idée d'une naturalité à l'intérieur de l'art. Or, c'est paradoxe que Kant, dont la perspective ici est très anticlassique, c'est pas Boileau, c'est pas Platon, c'est même pas Hegel. C'est à ces problèmes que Kant répond par la théorie du génie, c'est-à-dire le génie qui est un talent naturel. Et il faut ici entendre le texte, on a peu de temps pour en parler, mais c'est important juste de le citer rapidement et on reviendra sur la théorie du génie kantien. La nature était belle lorsqu'en même temps elle avait l'apparence de l'art. Et l'art ne peut être dit beau que lorsque nous sommes conscients qu'il s'agit d'art et pourtant celui-ci nous apparaît en tant que nature. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est que la beauté ? La beauté, c'est une réconciliation de la nature et de l'esprit. Or cette réconciliation, c'est une surprise. On est toujours pris au dépourvu par cette réconciliation. C'est un accord imprévisible, c'est un accord contingent. Il faut donc que la nature nous étonne en ressemblant à l'esprit, c'est-à-dire en ayant l'apparence de l'art. Et lorsqu'il est question de beauté artistique, il faut que nous puissions reconnaître, dans le produit fini, l'œuvre de la nature. Et c'est en cela que l'artiste de génie, par exemple, tout ça on le sait au fond, L'artiste de génie, il ne suit pas les règles. Il ne les transgresse pas non plus, il les invente. Le miracle de l'art tient au fait que cette invention naturelle fait immédiatement sens pour autrui et on retrouve l'intuition initiale d'un beau qui plaît universellement sans concept. C'est par la part de naturalité qu'on injecte dans l'œuvre d'art qu'on est capable de produire, la part d'impensé, d'inconscient, de génie, au fond, qu'on injecte dans une œuvre d'art, qu'on est susceptible. C'est la part de fidélité à la naturalité qui nous porte à fonder une œuvre d'art, à construire une œuvre d'art, la part de candeur, appelez ça comme vous voulez, si vous voulez. C'est à cela. Et c'est ce que Kant permet de comprendre. C'est à cela qu'on doit cette universalité paradoxale qui n'est pas scientifique, qui n'est pas conceptuelle.
Alors je sais qu'il nous reste trop peu de temps, mais comme ça je lance juste des pistes pour notre émission qu'on fera, on est obligé maintenant, un jour sur le génie.
Ouais.
Ça remet en question la possibilité d'une histoire de l'art. Parce qu'en radicalisant, si on dit que le génie est nature, puisque son œuvre est le produit de la nature, donc si on dit que le génie est nature... Comment imaginer une...
Ça remet en question la possibilité d'une histoire de l'art comme d'une histoire de la philosophie. Ça remet en question la possibilité, pour peu qu'on ait une conception vaguement artistique de la philosophie, ça remet en question la possibilité d'une histoire linéaire ou progressive de l'art comme de la philosophie. Ben voilà. Voilà. La théorie du génie, reconnaître du génie à quelqu'un, c'est reconnaître en lui quelque chose qui excède totalement l'ordre de raison qui le précède et les effets produits par, ou induits par son propre travail. Donc ça remet ça en question fondamentalement. Ça permet de revenir sur la différence entre le cœur et la raison, entre la sensibilité et l'intelligence, entre l'esthétique et la dialectique, entre l'idée kantienne, et de revenir sur l'idée kantienne qu'il n'y a pas de science du beau, mais qu'il n'en existe qu'une critique, par exemple, ce qu'il dit aussi. Ça remet radicalement en question l'hypothèse d'une histoire de l'art, et ça permet de montrer qu'au fond, une discipline qui injecte, qui suppose... que ce soit par le biais du désintéressement chez Kant, ou par le biais de l'oubli de soi chez Camus, par exemple. Mais une esthétique qui repose sur, pour l'homme, une décision d'abandonner un peu de ce qui le fait homme, c'est-à-dire un peu de la tentation de prendre ses désirs pour des réalités, une esthétique qui repose là-dessus, culmine fatalement dans une histoire monumentale de l'art, c'est-à-dire une histoire de l'art qui n'est qu'une succession de catastrophes qui aurait très bien pu, hormis le folklore et le détail technique, qui aurait très bien pu se produire dans un autre ordre que celui que nous connaissons.
Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise.
What were the skies like when you were young?
They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear. There were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact.
Merci, Paola. Voilà un coq qui nous tient lieu de Rossignol.
On fire, the clouds would catch the colors everywhere. That's neat because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that.
Merci à notre réalisateur Luc-Jean Reynaud, à Georges Clès à la lecture. Merci à vous, chers auditeurs, toujours plus nombreux. C'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui. De la critique de la faculté de juger, lisez au moins le paragraphe 42 avec les tris du Rossignol, ou est le paragraphe 9 peut-être. En tout cas, regardez les nuages si la force vous manque et demandez-vous pourquoi 1. Ils sont beaux, 2. Ils ont toujours une forme, 3. On ne s'entend jamais sur la forme qu'ils ont. C'est peut-être là le plus court chemin vers l'esthétique kantienne, c'est-à-dire sa sensibilité. Puis après tout, pourquoi ne pas lever les yeux au ciel pour rentrer dans un texte si laid qui dit pourtant des choses si belles sur la beauté elle-même. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur Internet, évidemment, à la page du Gai Savoir ainsi que sur Facebook. Et quant à nous, on se donne rendez-vous, on vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine de 16h à 17h, juste avant le ramadan du carême, pour une émission sur Clément Rosset et la question de l'identité.
Clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little.
Dans l'intervalle, c'est en toute ignorance de cause, mais en toute confiance que je vous recommande l'écoute des nouveaux chemins de la connaissance qui, tous les jours, de 10h à 11h, vous propose la philosophie inventive sur France Culture. Gardez donc un peu la tête dans les nuages. Il est 17h sur France Culture. Dans un instant, Ali Rebéi.